J'aime, j'aime pas, petit inventaire d'humeur, ce soir celui d'un dessinateur humoriste, Réserve.
France Culture, 1980.
J'aime les villes, j'aime les campagnes, j'aime la montagne, j'aime la mer, j'aime pas les banlieues. J'aime les gens humbles, j'aime pas la populace. J'aime les fêtes, j'aime pas les fêtes. J'aime que chaque jour soit une fête.
Réserve, je dessine le pire parce que j'aime le beau. Par Amaury Ballet et François Test.
J'aime les chants grégoriens, j'aime pas les curés. J'aime la musique militaire, j'aime pas les militaires. J'aime l'ordre, j'aime pas les flics. J'aime les bateaux, j'aime les ports, j'aime pas les marins. J'aime les avions, j'aime pas les grands aéroports.
Jean-Marc Parisis, vous êtes auteur et biographe de Réserve. Pourquoi cette passion pour ce dessinateur ?
D'abord, ça a été pour moi une forme de complice quand j'étais adolescent, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses avec les dessins de Réserve. Réserve traitait beaucoup l'actualité dans les années 70, et assez méchamment, assez brillamment. Donc ça faisait un peu un contrepoint avec l'information officielle, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, peut-être un peu plus profondément, il m'a toujours intéressé dans son rapport à l'adversité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né de rien, qui est pratiquement le fils de personne, qui avait tout pour échouer, et dont le génie intérieur l'a sauvé, en fait, en quelque sorte. Quand je vous parle d'adversité, c'est que dans la mesure où en fait il ne savait pas dessiner quand il était gamin, quand il était ado, il a dû inventer un trait. Et c'est ce qui fait son génie. Il a inventé un trait parce qu'il ne savait pas dessiner.
J'aime pas le foot, j'aime pas le rugby, j'aime pas le ping-pong, j'aime pas le tennis, j'aime pas le golf, j'aime pas le handball, j'aime pas le basket. J'aime les courses, de toutes sortes. J'aime nager, j'aime courir, j'aime marcher, j'aime pas les jeux. J'aime que ma vie soit un jeu.
Dessinateur solaire, Réserve croque sans relâche la société française des années 60-70. Gamin de la classe populaire, né en 1941 dans une Lorraine annexée par l'Allemagne, sa rencontre avec Cavanna et Choron change son destin. Dans les pages d'Harakiri et de Charlie Hebdo, il invente un trait minimal et libertaire. Ses personnages, comme le gros dégueulasse ou Janine, ainsi que ses caricatures féroces d'humour et de tendresse, marquent des générations de lecteurs. Si Réserve nous a quittés beaucoup trop tôt, un jour de novembre 1983, ses dessins résonnent encore aujourd'hui par leur justesse et restent un remède à la mélancolie.
C'était une personne absolument exceptionnelle. D'abord, il était beau comme un dieu. Donc
Michel Réserve.
Il avait un visage d'ange, il avait des yeux bleus d'un bleu.
Seconde épouse de Jean-Marc Réserve.
D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais dans la bulle à Angoulême et j'ai senti un regard sur moi, un regard quelqu'un qui me fixait. C'était son regard bleu, quoi. Et c'était quelqu'un qui était... J'ai toujours eu cette sensation qu'il était d'ailleurs, qu'il n'était pas d'ici, quoi, parce qu'il était lumineux, il était comme si... Vous savez, on a cette sensation, ces gens qui traversent comme ça, qui font un passage éclair, quoi.
Radioscopie de Jacques Chancel, 1980.
Réserve, dessinateur, caricaturiste, journaliste, je ne sais plus quoi dire, mais j'ai l'impression que vous avez abandonné déjà votre prénom. C'est Jean-Marc ?
Oui. C'est Réserve.
Pourquoi tous vous abandonnez le prénom alors pour installer un nom, ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs.
Oui, parce que c'est une réaction contre ce qui se fait dans le milieu parisien où on s'appelle par les prénoms. Comment va Jacques ou René, Paul Non, nous c'est nos noms de famille comme à l'école.
Tribunal des flagrants délits, France Inter, 1982.
Quand on observe attentivement une photographie de Jean-Marc Réserve enfant, on est frappé d'emblée par l'absence de gourmettes et de pelisses de fourrure qui caractérise la vêture du sujet. Cet arrogant laisser-aller vestimentaire ne constitue-t-il point, mesdames et messieurs les jurés, le signe de ralliement ostentatoire des pauvres ?
Rézère, il vient de Lorraine déjà, il est né là-bas, il est né d'une mère qui était femme de ménage dans une usine. Ils étaient très pauvres, hein. Rézère a toujours dit qu'il venait du sous-prolétariat lorrain, et pas n'importe lequel, c'est le sous-prolétariat lorrain en 1941, c'est-à-dire en Lorraine occupée par les Allemands. Hein. Donc c'était dur.
D'un père inconnu et d'une mère qui faisait des ménages, j'ai grandi en Lorraine dans le monde des prolos, se vante Rézère. Comment s'étonner, dans ces conditions, mesdames et messieurs les jurés, que l'enfant ait si vite mal tourné, dans un monde sans amour, sans chaleur, et qui sait, sans magnétoscope. Tout petit, Jean-Marc Rézère est déjà vulgaire. Par exemple, à la fin de son biberon, il rote.
Ils sont venus plus ou moins s'installer à Paris, et puis, sans me tromper, à 4-5 ans, elle l'a collé en nourrice en Normandie. Et évidemment qu'une partie de son bestiaire, une partie de ses fables animalières, provient de là. Il a connu les animaux là-bas. Et puis, il y a aussi ce qu'on oublie assez souvent dans ce rapport-là, c'est que il n'a pas simplement connu les animaux en Normandie. Il a également fait l'expérience d'une écologie pratique, appliquée au quotidien. Je veux dire, rien ne se perd, tout se transforme. Et son intérêt pour l'énergie solaire, son intérêt pour les énergies de recyclage, son intérêt pour l'anti-gaspillage et pour une écologie humaine, il a découvert là-bas. Voilà.
En fait, moi, je lui disais...
Wolinski, en 2003.
La chance de ta vie, c'est d'avoir été un fils de pauvre et de ne pas avoir eu de père. Parce que tu aurais eu un père, doué comme tu es pour les sciences, bah, tu serais devenu un connard... de cadre supérieur dans les avions avec ton ordinateur et il valait mieux quand même avoir un grand dessinateur comme toi.
J'aime le rouge, j'aime les fleurs, j'aime les coquelicots, j'aime les géraniums, j'aime les flamboyants, j'aime pas les chrysanthèmes. J'aime croquer les pommes, j'aime pas les tripes. J'aime les chiens, j'aime pas les chiens dans les villes. J'aime la musique, j'aime pas entendre la musique partout.
Jean-Marc Parisis, Rézère revient à Paris préadolescent. Comment ça se passe? Quel type d'ado c'est?
Ben, je crois que c'est un ado assez solitaire. Il suit sa maman, Charlotte, de garni en garni, parce que Charlotte fait des petits métiers. Donc, ils ont beaucoup changé d'endroit dans Paris. Et puis, il suit des études. Voilà. Il aurait voulu être justement ingénieur en énergie solaire. Et puis sa mère lui apprend tout d'un coup que finalement, il n'y aura pas d'études parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc il faut qu'il se débrouille.
La majorité était à 21 ans à l'époque. Hein.
Mais Franz Rézère.
Les jeunes qui voulaient s'émanciper très vite tout seul. Mon père, il a commencé à bosser comme grouillot, ce qu'on appelait grouillot. C'était chez Nicolas. Il allait dans les bureaux, il ramassait les papiers qu'on avait besoin dans d'autres bureaux, etc. etc. Il a commencé comme ça à gagner sa vie, entre guillemets. Et puis il dessinait toujours. Hein. Et c'est quelqu'un qui l'a remarqué au boulot, dessinant. Et il a fait ses premiers dessins dans Nectar, le journal d'entreprise de chez Nicolas. Et il a même placé les premiers dessins dans La vie du rail, après.
Alors on est venu pour parler de Rézère.
Voilà, c'est ça.
Jean-Marc Rézère, on se trompe pas.
Delphine de Thon, auteur, journaliste, est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier souvenir de Rézère?
J'ai connu trois personnes en même temps, quatre personnes, qui sont toutes disparues, quoi. C'était Cavana, c'était Wolinski, c'était professeur Choron et puis Rézère. Quand je suis rentré à Rakiri, Rézère est arrivé à Rakiri par le trottoir, c'est-à-dire qu'il a acheté sur le trottoir un journal qui était vendu par des colporteurs, et le journal en question, il était fait par Cavana et le professeur Choron. Et donc Rézère découvre ce journal, et puis ben, il dit, ils ont l'air sympas là-dedans, quoi. Il s'est rendu compte que les gens qui faisaient ce journal étaient des gens comme lui. C'est-à-dire des gens qui avaient le certificat d'études et ils avaient l'âge d'être son père. Et alors ils l'ont reçu et il était paumé, quoi. Ils l'ont encouragé, ils l'ont dit de revenir. Cavana lui a dit, tu vois ça, l'ombre, il faut pas faire ça, quoi. Des petits conseils, mais quoi, Cavana, c'est pareil, il avait appris à dessiner tout seul, quoi. Et donc Rézère s'est trouvé, d'une certaine façon, deux papas. C'était Choron et Cavana.
Après la chouette pesticulence, il y a eu l'enfant. En parlant de l'enfant, petit con pour souffler débile, toute la journée dans la gueule, un biberon en caoutchouc synthétique de mer.
Alors Réserve, vos dessins font partie d'une certaine panoplie adaptée au temps moderne, avec Volinsky, avec Cabu, avec GB, avec Ciné, avec Brett. Je ne sais pas si vous reconnaissez cela comme des compères.
Hein, tout à fait.
En tout cas, vous avez installé une manière différente de penser. Alors on peut dire que vous êtes l'un des témoins de l'humour, vous dit bête et méchant. Et peut-être, dans le fond, êtes-vous prisonnier un peu de vos dessins et de votre personnage?
J'ai pas envie d'en changer, en tout cas. Je suis bête et méchant, je suis fier de l'être, maintenant.
C'est l'humour qui est bête et méchant.
L'humour n'est que
bête et méchant. Mais la vie aussi est bête et méchant.
La vie est bête et méchant, donc l'humour est bête et méchant. Mais je reste sur ce fait tout simple. On vit, on est un jour sur cette planète, on n'a pas demandé à venir, on est là. Et déjà, à partir du moment où on est sur la vie, la douleur commence. Il va déjà falloir mourir. On n'a rien demandé, déjà la douleur commence au départ. Alors qu'on n'a rien demandé, déjà c'est bête et méchant au départ.
Après la rencontre avec ma maman, bah, elle a été appelée sous les drapeaux à l'époque. Et c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Alors Cabu, lui, a été en Algérie. Et mon père, lui, a été sur le front de l'Est. Il était dans les chars, les AMX-13, et il était à la frontière tchécoslovaque. Ça le faisait beaucoup rire. Il disait toujours, de toute façon, si le pacte de Varsovie a décidé de nous rouler dessus, ils ont des chars qui font 55 tonnes et les nôtres qui font 13 tonnes. Donc c'est perdu d'avance. Quoi. Mais ça le faisait beaucoup rire. Mais il a vécu ses 27 mois d'armée ou 28 mois d'armée, c'était très dur. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. Cabu, lui, a vécu la guerre d'Algérie, c'est-à-dire avec ce que ça comporte. Hein. Et je sais que tous les deux, ils ont été fortement imprégnés. Alors Cabu est devenu antimilitariste, et mon père, lui, pas du tout, en fait. Il n'était pas antimilitariste dans le sens où il cassait pas du militaire, il se foutait de leur gueule, mais... Mais moi, je sais qu'il a toujours dit, de toute façon, tu feras ton service militaire, quoi. Ce qui me surprenait un peu, mais parce que moi, j'étais un peu en mode dilettante, je me disais, bon, si je peux me faire exempter ou réformer, je fais quoi ? Non. Moi, j'ai fait 27 mois d'année, pas de raison que toi, tu fasses pas combien c'est maintenant ? 12 mois, non, mais franchement. Donc voilà, quoi. Et puis, quand on m'a appelé, et voilà, quoi, j'ai fait mon armée, alors que mon père était plus là. Hein. Mon père a été décédé entre-temps. Mais j'aurais pas pu ne pas la faire, quoi. Ça aurait été compliqué, quoi, au niveau mémoriel. Après, quoi, il va me regarder avec un œil noir, là, je le verrai partout en train de me dire « Comment t'as pas fait l'armée ?» Bon, et puis finalement, j'en ai gardé des très bons souvenirs, parce que j'étais maquettiste du journal de l'armée de l'air.
J'aime les chemises propres. J'aime pas les slips sales. J'aime la violence, j'aime pas prendre des coups de poing dans la gueule. J'aime le cinéma... J'aime pas les salles de cinéma. J'aime le train, j'aime pas les SNCF. J'aime l'autobus, j'aime pas la RATP. J'aime pas l'URSSAF, j'aime pas la CEDIC. J'aime pas la sécurité sociale. J'aime pas les HLM, j'aime pas l'État. J'aime les hommes responsables d'eux-mêmes, j'aime la vie.
Jean-Marc Parisis, qu'est-ce qui représente les premiers dessins de Réserve chez le tout jeune Harakiri ?
Pas grand-chose. À ce moment-là, au début des années 60, Réserve, c'est vraiment un second couteau. Hein. D'abord, il est très jeune, hein, il a une vingtaine d'années. Et ses dessins, c'est pas terrible. Alors, Cavana sent quelque chose, comme il a toujours dit, mais enfin bon, c'est pas encore du grand Réserve, quoi.
C'était pas grotesque ce qu'il faisait, mais c'était pas bon. Il s'inspirait des aînés. Il essayait de faire aussi bien que Aldebert, que Dubout, que c'était les grands dessinateurs de l'époque. Et puis, il y a eu ce service militaire qu'il a coupé du début d'Harakiri. Et il est revenu du service militaire, démoli par le service militaire. Le service militaire, ça démolit les mecs. Et il a mis au moins un an avant que Cavana lui dise « Je te prends un dessin. » Le dessin du pont des enfants perdus.
Vous pouvez nous le décrire, ce dessin ?
C'est une recréation mentale, hein, en fait, en quelque sorte. C'est un homme qui tient un petit garçon par la main, qui s'engage sur un pont et aux traces de pas que l'on voit, l'homme est censé traverser le pont, tandis que le petit garçon qui lui tient la main, le pont s'arrête beaucoup plus tôt pour lui, d'une certaine façon, et voilà, il tombe, il est censé tomber dans un précipice, en fait, voilà, voilà. Et c'est tout à fait une allégorie, finalement, de ce qu'on pourrait appeler l'abandon du père. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que Rezer n'a jamais connu son père et que ça peut être d'une certaine façon une espèce de symbole, une allégorie, une parabole du père qui tient l'enfant par la main, mais il le tient pas très longtemps puisque finalement il l'emmène au gouffre en fait.
Johann Sfar, dans votre ouvrage Les Idolâtres, vous consacrez une double planche à Rezer.
Il a été fondateur pour moi, c'est un auteur provocant, c'est un auteur pour les grandes personnes, mais moi quand j'étais petit, je le voyais comme un auteur pour enfants qui me faisait marrer, au même titre peut-être que Coluche à la télévision. Et j'ai découvert les aquarelles grâce à Rezer, parce que lors d'un film qui était fait sur lui par sa future femme, qui était journaliste à l'époque, il a dessiné un gros dégueulasse, il a mis du rose dessus à l'aquarelle, et il a plongé le personnage dans la piscine, et on voyait la peinture nager autour du bonhomme, et c'est à la suite de ça que j'ai acheté mes premières aquarelles. Ce qui me touche, c'est qu'il est l'inverse de ce qu'il fait en permanence, c'est-à-dire qu'il dessine la violence, la bêtise, la crasse, machin, alors qu'il était en avance sur tout le monde sur le sujet du féminisme, il était en avance sur tout le monde sur l'écologie, il avait une conception de la ville, de l'architecture qui était très avant-gardiste, et c'était un type qui était à la fois provocant et positif, et pour moi c'est mon idole, voilà. Enfin, c'est une de mes idoles, mais il est important pour moi.
Moi, je veux dire, c'est surtout le jeu de l'écriture, le jeu de la pensée. Comment pense-t-on lorsqu'on dessine?
Ça va très très vite.
C'est vrai? Vous prenez des notes avant ou bien la feuille blanche et puis vous y allez?
Et encore une fois, si je n'ai pas vraiment expliqué, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne exactement. Je ne sais pas comment fonctionnent les méandres du cerveau. Je m'intéresse maintenant à la manière dont fonctionne un cerveau dans ces conditions-là. Parce que ça va très très vite, c'est d'une telle violence.
C'est même contre
tellement
vous.
Subtil, oui.
Oui.
Oui. Et ça arrive. Mais il faut rester des heures dans sa table. Il faut rester des heures et il faut éviter de sortir, justement. Enfin, moi, je travaille comme ça. Et je vis comme un espèce de un vieux croton de pain dans son coin. Et c'est quand je suis resté longtemps chez moi que les idées se mettent à jaillir brusquement. C'est d'abord des dessins faits comme ça, en liberté. Et puis, deux dessins amalgamés, hop, donnent une autre idée, et ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, à une fraction de seconde, on sent qu'il se passe des quantités de choses dans les neurones. L'idée jaillit. C'est un flash qui arrive tout de suite. Et j'y prends grand plaisir, d'ailleurs. À mon avis, il me semble que c'est les grands moments de plaisir de la vie, pour moi. Et quand j'ai réussi à trouver une idée, et que je me dis, voilà, cette idée va plaire à des milliers et des milliers de gens. Ça, c'est prodigieux. Ça, c'est prodigieux.
Jean-Marc Parisis, quelle est sa vie personnelle à Rezer à ce moment-là?
Alors, la vie personnelle de Rezer, on va dire, après son service militaire. On va parler des années 63, 64, etc. C'est les logements sont trop chers à Paris, donc avec sa femme, il part en banlieue. Il vit assez longtemps à Bondy. Et c'est très intéressant, Bondy, pour Rezer, parce que c'est pas Paris, donc il va à Rakiri toutes les semaines, mais sinon, il travaille chez lui. Et il est dans une espèce de... À la fin de son séjour à Bondy, il est dans une espèce de résidence pour cadre moyen, et il observe. Il observe le quotidien des cadres, il observe le quotidien des ménagères qui vont au marché de Bondy, etc. Et tout ça, à mon avis, l'oriente beaucoup vers le dessin social.
Gérard, mon chéri, dis bonjour à Madame Dubreuil. Oh, Gérard, voyons, sois gentil. Gérard,
dis-moi.
Gérard.
Mes parents divorcés... J'étais relativement petit. Et donc, on se voyait aux vacances et pendant les week-ends, quoi. Donc, c'est surtout des voyages, des balades. Et puis, lui, dessinant à sa table à dessin jusque très tard dans la nuit, parce qu'il dessinait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il s'arrêtait jamais d'avoir des idées et de les mettre tout de suite sur papier, quoi. J'ai le son encore du feutre sur les papiers, le pintel noir qu'il utilisait, que j'entendais sur la feuille une grande partie de la nuit. Et voilà, quoi. Et j'aimais bien me lever et aller voir par-dessus son épaule ce qu'il dessinait. Et quand ça me faisait marrer, ça lui plaisait beaucoup. Je me souviens qu'il se retournait en me disant « ça te fait marrer ?» Je dis, ouais, voilà. Donc ces dessins m'ont toujours accompagné, m'accompagnent encore beaucoup.
Je signale pour l'anecdote, et malgré la honte que j'en ai, que les chiens de réserve enfants s'appelaient Rick et Rack, et que l'infâme adorait apprendre le caniveau au second en lui criant « vas-y, chi-rack ».
Il essayait de dessiner aussi bien que les autres, c'est-à-dire de dessiner comme les autres, mais c'était pas son truc, parce qu'il a dessiné comme personne, justement. C'est pour ça qu'on en parle encore. C'est maintenant, il y en a 500 qui dessinent comme Reiser, quoi. À la manière de Reiser, qui essaye de faire du... Mais à l'époque, c'est lui qui a inventé ce style. Cette manière d'être, cette manière de voir, cette manière de représenter, de se foutre du réalisme. Il a débuté à une époque où la BD, c'était... Il n'a jamais fait de bande dessinée, mais où la BD pour enfants, tout ça, c'était les petites cases, et c'était du dessin réaliste. Et lui, son dessin n'a pas été réaliste du tout. Reiser, il a fait péter plein de représentations dans le dessin. D'ailleurs, il ne terminait pas ses personnages. Il y avait des personnages qui étaient juste un mouvement, qui étaient juste un trait. Il n'y avait pas de main, il n'y avait pas de pied. Des fois, il n'y avait pas de tête. C'était le mouvement qui fait appel à l'intelligence du lecteur, quoi, ou à l'instinct du lecteur, mais qui ne met pas les points sur les i, quoi.
Moi, je suis Marie Morel, je suis dessinatrice de presse et illustratrice. J'ai 36 ans et je dessine entre autres pour Le Monde, pour Cinémensuel, Cosette, le L un petit peu aussi, et l'édition comme les éditions Sarbacane ou Actes Sud.
Quel regard portez-vous en tant que dessinatrice sur le trait de Reiser qui est quand même bien particulier?
En fait, le trait de Reiser, moi je l'aime beaucoup parce que en fait, c'est un trait jeté. Donc à l'époque, il y avait certains qui lui reprochaient que c'était mal dessiné. Mais en fait, ce trait jeté, en fait, il est très expressif. Ça permet une certaine sincérité des émotions. Un trait jeté, c'est un trait qui va pas être académique, on va dire. Il va pas chercher à représenter la réalité. Un trait jeté, ça sera vraiment un trait très simple qui va naître d'une énergie donnée par le mouvement du poignet ou de la main. Et voilà, il va aller à l'essentiel, ce trait. Plus c'est épuré, plus c'est simple, plus c'est dur à faire. Et en fait, justement, Reiser, lui, il va vraiment à l'essentiel. Il va capturer l'énergie qu'il faut sans trop de détails, quoi.
Jean-Marc Parisis, Reiser, il a collaboré avec d'autres magazines, d'autres revues à cette époque également.
Lors d'une interdiction, je ne sais plus si c'est Harakiri ou Charlie Hebdo, il fallait bien bosser. Il est parti voir ce qui se passait à Pilote. Et à Pilote, les dessins de Reiser posaient quelques problèmes. Donc en fait, il s'est beaucoup cantonné au scénario. À la fin, il a fait des dessins, mais au départ, il a été engagé comme scénariste. Et puis, dès que la censure a été levée, il a réintégré le giron d'Harakiri et plus tard de Charlie Hebdo. Il a fait contraint et forcé Choron, qu'on appelle aussi Bernier, Georges Bernier, hein, et Cavana, n'étaient pas pour éparpiller les troupes vers la concurrence. Hein. Il fallait que ça reste un clan, un phalanstère, une famille. Voilà. Et donc, dès qu'ils ont pu, après la censure, ils sont tous revenus dans le giron de Cavana et Choron.
Johann Sfar.
Reiser, quand il est arrivé à Pilote, il pensait qu'il était uniquement scénariste. Et il pensait que c'était des storyboards. Et René Goscinny lui a dit non, ça ce sont de vos dessins finis, on va les publier comme ça. Donc il a une voix, au même titre qu'un chanteur. Je ne sais pas s'il raconte des histoires ou s'il fait des instantanés, mais il est entre, effectivement, la narration et le dessin de presse. Il y a les deux, il y a des personnages, il y a une vision de la France aussi. C'est un portraitiste de notre pays. Et pour moi, c'est quelqu'un d'aussi important que Cabu, par exemple. La question centrale de Reiser, c'est jusqu'où on peut déconner avec le dessin. Et il utilise tout de même un matériau qu'on a connu en enfance. C'est le dessin d'animaux, c'est le dessin de caricature. Et il emmène tout ça sur le terrain politique, il emmène tout ça chez les adultes. Il amène, avec les couvertures de Harakiri, il est vraiment dans le lien social. Il y a eu une époque où le dessin... avait cette puissance-là. Ça revient peut-être un petit peu en ce moment. Il y a une puissance du dessin aujourd'hui qui était assez inimaginable au moment où l'informatique est arrivée et tout ça. Mais enfin, Reiser a été le précurseur de tout ça. Quand des gens disaient un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule, bah, Reiser, c'est la personnification de ce coup de poing dans la gueule.
Chez Reiser, dans son œuvre impie, le cynisme et la trivialité graveleuse le disputent à l'ineptie pathologique d'un monde fantasmagorique répugnant qui se gausse des plus sombres misères humaines et souille dans le même bain de fanges nauséeuses et d'inextinguibles haines, Dieu, les anciens combattants, les syndicats, l'Église, les déportés, ma sœur, la semaine de 39 heures, les congés payés, la SPA, la bombe atomique et même Madame Grace Kelly qui, je l'espère, n'est pas à l'écoute aujourd'hui, elle qui a horreur de la vulgarité.
Il s'est retrouvé dans l'équipe d'Harakiri, qui est son école formatrice, quoi. Il était à la fois écolier et auteur. Il s'est retrouvé avec des gens qui avaient quelques années de plus que lui. Cabu avait 3 ans de plus que lui. GB devait en avoir une dizaine d'années de plus que lui. Volinsky avait 7 ans de plus que lui. Il était avec des aînés. Des aînés qui étaient des débutants, eux aussi. Qu'ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus si c'était pas retrouvés tous ensemble autour de Cavanna et Choron, et si Cavanna et Choron leur avaient pas donné un journal où on faisait ce qu'on voulait, ou tout au moins ce que Cavanna voulait. Cavanna, c'est pas qu'il voulait des choses, c'est qu'il y a des choses qu'il voulait pas. Cavanna refusait les jeux de mots, refusait les calembours, refusait tout un tas de facilités qui tuent le dessin de presse, quoi. Il refusait les attaques à Dominem, et il refusait plein de choses, quoi. Évidemment que, comme ils étaient plus âgés, ils dessinaient depuis plus longtemps, ils avaient acquis un savoir-faire, etc. Reiser lui connaissait rien. et il a appris sur le tas, quoi.
Bic et bouc, bouc et bic, bic à voile, bouc à vapeur, bic et bouc.
Moi j'étais relativement jeune quand j'allais le voir à Charlie Hebdo, parce que j'allais les jours de bouclage. Et j'étais pré-ado, donc c'était un peu comme des tontons, quoi. Que ce soit Cabu, Volinsky, surtout Volinsky qui aimait bien me prendre sous son aile en moufillant mon père, parce que mon père était un peu... Il avait un côté un peu sévère, il aimait bien que je file droit, comme on dit. Et donc, Volinsky, Cabu, tout ça, prenait souvent ma défense, quoi. En disant, oh, c'est bon, il est môme, il est petit, voilà. Parce que mon père était un peu, ouais, était un peu sévère, quand même. Moi, je me souviens de cette grande table où ils étaient tous assis autour et à dessiner pour essayer de faire la couverture, et pas finir dans les couvertures auxquelles vous avez échappé, parce que ça, c'était quand même leur enjeu de celui qui allait faire la couve. J'aimais bien cette ambiance d'adulte qui avait l'air de bien se marrer, de voir la vie du bon côté, tout en s'intéressant quand même très fort aux problèmes. Ça donnait lieu à des belles empoignades, parce qu'ils étaient quand même pas tous du même avis, hein, heureusement. Ils avaient beaucoup d'avis tranchés et assez différents les uns les autres, et c'était assez drôle de les entendre argumenter, quoi.
Dans sa vie personnelle, Jean-Marc Parisis, à ce moment-là, il est divorcé.
Il est divorcé de sa première femme. Et donc, il vit la vie d'un célibataire parisien dans les années, au milieu des années 70, après 68, quoi. Donc, beaucoup de rencontres, il a eu beaucoup d'aventures, mais à mon avis, pas plus que les autres, hein. Charlie et Harakiri, quand ils étaient rue des Trois Portes, là-bas, dans le 5e arrondissement, je veux dire, les bouclages, tout le monde venait, les copines, les femmes, etc. Enfin, pas les femmes, mais les copines. Et ça s'amusait bien, quoi.
Il fréquente qui, à cette époque, Reiser, au niveau de ses amis, des collègues, en dehors de son travail?
Alors ça c'est une bonne question, parce que d'abord il a toujours dit, et Cabu me disait ça aussi, il me disait, tu sais, en fait, une vie de dessinateur, c'est une vie de solitaire, en fait. On est rivé à sa chaise et à sa table de travail, en fait, hein, en quelque sorte. Et finalement, Reiser était comme lui, il voyait peu de gens. Hein. Et il voyait des gens pour qui il avait une espèce d'intérêt et d'estime et intellectuelle, et qui n'avait rien à voir avec le dessin. Il fréquentait des ingénieurs du CNRS pour l'énergie solaire. Il a été très, très ami avec Mario Botta, l'architecte. Voilà, il fréquentait des gens qui étaient d'horizons assez assez différents. Mais finalement, la constante de Reiser, c'est que c'est un mec seul, hein, quand même. Voilà.
Quelqu'un avec qui il y a peut-être une complicité, une fraternité, c'est Coluche.
Alors Coluche, oui. D'abord, il y a le même génie comique. Moi, j'ai toujours pensé que le personnage qui s'appelle Gros Dégueulasse de Reiser, qui apparaît à un moment avec une salopette, pour moi, il est plus ou moins inspiré de Coluche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il s'entendait bien. En plus, une jeunesse un peu pareil, assez dure, assez compliquée. Enfin, celle de Reiser était plus compliquée. Pareil, une espèce d'anarchisme généreux, en fait, en quelque sorte. Et puis surtout, l'aigu de la vision, côté tranchant de l'esprit, côté acéré.
Tu me rêves une histoire extraordinaire. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Bon. Et sur le champ, on est refoulé par les agents.
Bon, circulez là.
Alors j'ai dit,
on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là.
Il y a un parallèle à faire entre Reiser et Coluche, c'est-à-dire c'est pas pour rien qu'ils ont fini par faire des choses ensemble. La mère femme de ménage, pas d'études, etc. Et qui s'imposent par leur persévérance, par leur sérieux dans le travail, parce que Reiser était vraiment sérieux dans le travail, et leur curiosité, quoi. Et leur non-conformisme, ils s'abaissaient jamais, et ils ne laissaient pas les autres les abaisser.
On est sortis très à l'aise,
et voilà
que j'ai eu l'idée
de revenir chez moi.
Mais j'ai compris, devant le rouleau, à part ici. Oh, sur la tête.
Doudou, on n'est pas là.
On est là pour la fête à mon pote.
Jean-Marc Parisis, comment il se situe au niveau politique?
Il est farouchement individualiste. Avant tout, il est farouchement anarchiste. Il n'a pas défilé en 68. Je veux dire, il était du côté des humbles, il était du côté des humiliés, il était du côté de la veuve et l'orphelin. Mais ce que je trouve très beau d'ailleurs, de manière, véritablement... humaine, personnelle et engagée. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il détestait les syndicats. Il détestait les effets de groupe. Il méprisait la politique. C'est quelqu'un qui s'engageait personnellement, mais jamais dans des appareils. Comptez que sur vous-même, quoi. Voilà. Et sur vos proches.
Des mots qui nous accablent, nous allons vers le pire, l'apocalypse vient, cessons de nous mentir, ouvrons enfin les yeux, nos yeux couverts d'écailles, sous des paupières de plomb.
Franz Reiser, on est avec vous sur votre lieu de travail. Il y a pas mal de dessins qui sont accrochés, de choses diverses et variées. Et notamment, il y a une planche qui vous fait bien rire de votre père, là, ici.
Bah oui, c'est le premier dessin qu'a fait mon père au lendemain de l'élection de Mitterrand. Et comme on nous promettait le pire avec l'arrivée des communistes au pouvoir, puisqu'il était quand même question qu'il y ait des ministres communistes, et donc il s'est dit, bah, tant qu'à faire, je vais faire un dessin vraiment, vraiment péchu pour voir si je crains quelque chose. Et donc, il l'a nommé le premier dessin qui mérite le goulag, en haut. Et puis, en dessous, il a écrit aux chiottes et cégétistes avec le sigle CGT. Et vous êtes con, gras et triste. Même mes copains qui sont à la CGT et qui viennent ici, ça les fait marrer, bien évidemment. Voilà. Et en dessous, j'ai un autre dessin qui me fait beaucoup rire parce que mon père était très écolo, quoi. Et il a un petit bonhomme qui est assis sur un tas de, on dirait de gravats, et qui raconte et qui dit « Plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de plages et bientôt plus d'arbres. Peinard. » Et ça, c'est tout lui, quoi. Parce que c'est l'inverse de ce qu'il pensait, évidemment. Et de ce pourquoi il se battait.
Dans la nuit, les oiseaux perdent leurs plumes au clair de la lune. Les avions s'allument sur prairies, sur forêts, sur coccinelles. Poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien beau? Couvert de couleurs peintures ou de vert nature?
Au début des années 70, quels sont les grands sujets qu'il préoccupe Reiser ?
Le féminisme, les luttes sociales, mais plutôt du côté des femmes. L'architecture, beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire qu'il détestait, à la fois il détestait l'habitat pavillonnaire, il trouvait très très laid. Il en avait vu à Bondy. Et puis les grands ensembles. Et comme c'était quelqu'un pour qui la qualité de vie et que l'habitation du lieu voulait dire quelque chose, il a énormément dessiné. Contre les architectes, en tout cas, ou contre les mauvais architectes. Donc, l'architecture, les luttes féministes, le racisme, évidemment, l'enfance bafouée, puisque là, c'est biographique, en fait, d'une certaine façon. Et souvent, se trimballe dans les dessins de Reiser un petit môme, un petit mec, quoi. Un petit mec. Reiser n'était pas grand, était très, très vif, très nerveux, très pulsatile quand même. Et voilà, il y a un petit mec qui donne son avis, qui légende, etc. Donc, l'enfance bafouée, les vieux. Ah, les vieux, c'est pour lui, c'est très important aussi. C'est, à l'époque, on les appelle pas encore les seniors, hein, dans les 70, hein, c'est un peu les rebuts. Puis à l'époque, je peux vous dire que les vieux, c'était pas à 80 ans, hein, c'était à 60. Donc, je vous le disais, le cercle est très large. Et évidemment, l'énergie solaire. Parce qu'il a récupéré son vieux rêve d'ado qui a dû arrêter les études, il l'a récupéré plus tard. Reiser est un mec extrêmement tenace. Donc dès qu'il a pu, il est reparti sur l'énergie solaire, mais à sa façon, via le dessin.
Votre attention, ordinateur de bord à tout l'équipage. Pour votre plaisir, nous vous présentons maintenant l'intarissable succès quand le soir tombe sur la Nova NGC 91.
Michel Reiser, vous êtes la seconde épouse de Jean-Marc Reiser. Qu'est-ce qu'il appréciait dans la vie ?
C'était quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui aimait se coucher tôt, il aimait les femmes, il aimait c'était quelqu'un qui était fait pour l'amour, c'était un amoureux merveilleux. Et il aimait beaucoup lire, donc comme il n'avait pas été à l'école, hein, il était autodidacte, il avait lu tout Teilhard, il avait énormément lu, et il continuait à lire, il était très cultivé, et passionné de science. Il était invité dans les congrès scientifiques d'ailleurs, puisque vous le savez, il s'est beaucoup intéressé à l'énergie solaire, et c'est un précurseur. Reiser, c'est un visionnaire, voilà, c'est un visionnaire.
J'ai cherché longtemps un architecte. J'ai cherché pendant des années. Et je l'ai trouvé, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Mario Botta. Je crois que vous entendrez de nouveau parler de lui. Il y a quelque chose. Je crois que c'est l'architecte qui convient le mieux à notre civilisation, à nous-mêmes, à notre vie d'aujourd'hui. Et c'est celui qui a compris les choses. Alors que les architectes, la majorité des architectes, n'ont pas compris. Ils sont restés dans un autre temps.
Mario Botta, en tant qu'architecte, qu'est-ce que Reiser aimait chez vous ?
La simplicité. La simplicité en soi-même, dans la composition, dans l'écriture architecturale. Mais en plus, il avait un sens particulier de la lumière. La lumière naturelle, la lumière selon le cycle solaire, dans les différentes saisons. C'était un homme qui vivait en fonction du rythme de la vie. Moi, j'ai ressenti dans la réserve un esprit très humain vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du vert, vis-à-vis de la complexité aussi qu'il faut quelquefois pour vivre.
Il vous parlait beaucoup du solaire aussi à l'époque?
Oui, il était un des premiers à parler du solaire, à parler d'écologie, et il mettait en évidence le cycle solaire, la transparence, mais aussi la force statique, les murs qui travaillaient à gravité, il aimait ça. Hein. Ce n'était pas un homme qui aimait seulement la légèreté et la transparence. Il avait cette intuition que le soleil, il était aussi, il pouvait devenir un moteur pour la nouvelle énergie.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil, complètement. Nu au soleil.
Jean-Marc Parisis, un autre grand sujet chez Reiser, c'est le sexe.
Il faut voir quand ça explose tout ça. Ça explose au milieu des années 70. Ça explose avec la vague pornographique qui arrive des pays nordiques. Ça explose avec le cinéma porno qui arrive en France. Voilà, etc. Et que, évidemment, Reiser se doit ça l'intéresse. Mais c'est pas un pornographe. Pour moi, les dessins de Reiser sur le sexe, ça va tellement loin. Je veux dire, c'est tellement fou parfois que c'est une forme de mise en abîme du sexe. C'est-à-dire que à aucun moment, c'est de l'érotisme. À aucun moment, c'est fait pour provoquer une forme de désir. Je crois que d'une certaine façon, c'est même fait pour liquider le désir. Bah, une bataille de viande, en fait, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, c'est très... Il y a des, voilà. Et si on parle d'amour... Si on parle d'amour, il y a quantité de dessins de Reiser qui sont une forme de fraîcheur et de romantisme. Et je veux dire, c'est pour ça qu'il est tant aimé des femmes. Je veux dire, il faut bien voir que, si vous voulez, le succès de Reiser dans les années 77-78, il est absolument impulsé par les magazines féminins. Elle s'y retrouvait. Si Reiser, à mon avis, connaît très si bien, en fait, l'érotisme féminin et la façon dont les femmes envisagent l'amour et le sexe, qui est bien différente d'ailleurs de celle des hommes, c'est qu'il a vécu entouré de femmes. Je veux dire, faut pas oublier que d'abord il a été élevé essentiellement par sa mère. Ensuite, après, il a eu beaucoup d'amis féministes, notamment allemandes, qui venaient à Paris dès la fin des années 60. Et puis, comme il était plutôt mignon, d'une certaine façon, et tout sauf macho, parce que c'était vraiment l'anti-macho, je veux dire, les femmes venaient naturellement vers lui, et par une espèce de charme diffus qu'il avait, presque enfantin, et en fait, c'était pas toujours pour faire l'amour. C'était même, moi, je pense, beaucoup plus souvent pour discuter, pour partager, pour se marrer, vous voyez ce que je veux dire? Et quantité de bandes et de dessins lui ont été inspirés par ce que lui racontaient des amis.
Est-ce qu'il y a des dessins en particulier de Reiser qui vous marquent, que vous gardez en tête?
Alors oui, il y en a un en particulier, c'est un homme accroupi devant une femme qui est assise et elle a les jambes un peu écartées et il a vraiment le nez presque dans... Je peux dire la chatte ou pas?
Oui,
a vraiment le nez dans sa chatte et en fait il dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau une femme !» En fait, ce dessin-là, moi, il me fait rire et sourire. En fait, pour moi, il faut vraiment, comme chaque dessin de presse, il faut les remettre dans le contexte, c'est très important pour avoir la bonne lecture. Et quand on a cette remise en contexte, on peut vraiment profiter de son œuvre, en fait. Reiser, tout comme toute la clique de dessinateurs de son époque, ils ont participé, grâce à leurs dessins, qui étaient subversifs, ils ont participé au féminisme, là où on en est aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on a choqué le public, sensibilisé sur certains sujets. Voilà. Donc évidemment, les sujets évoluent et nous, on sera aussi les has-been dans 50 ans de générations futures. Mais c'est comme ça que les choses évoluent, quoi. C'est en dessinant, en essayant de faire bouger les lignes, en étant subversif pour l'époque, en choquant. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes et c'est ce que Reiser a fait.
Jean-Marc Parisis, au niveau de ses publications, à ce moment-là, c'est les albums qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires à la fin des années 70.
Ouais. D'abord parce que c'était d'autres chiffres qu'aujourd'hui, je vous le dis, il était très... Moi, j'aime pas le mot, mais on l'a relativement, c'était une star du dessin, c'était l'un des mecs qui vendait le plus. Ça correspondait aussi... L'arrivée du génie féminin, en fin de compte, dans la société, que Reiser a anticipé et qu'il a accompagné, en regard d'une forme de génie féminin qui arrivait, il y avait une redéfinition de ce que pouvait être un homme. On a parlé des nouveaux philosophes, mais il y avait aussi cette histoire de nouvel homme. C'était incarné par Souchon, l'homme anti-macho, l'homme fragile, l'homme délicat, l'homme sensible, l'homme ami des femmes... En plus, il faut bien voir que Charlie Hebdo, l'acmé, on va dire, en quelque sorte, le plus haut des ventes, c'est 75-76. À partir de 77-78, ça commence un peu à tomber, et même un peu beaucoup même. En revanche, à ce moment-là, Reiser, lui, devient de plus en plus connu.
France Inter, 1982.
Un week-end réussi, c'est un week-end où je me suis levé, où j'ai pu fourcher de l'herbe, où j'ai pu me déblayer un peu cette baraque, et puis où j'ai pu faire des dessins qui en valaient la peine, des dessins dont je serais content quelques jours après.
Mais pas quelques turpitudes, alcool, dames.
Ah, attendez, j'ai pas fini.
Fumette, ah pardon, oui.
Et puis où j'ai pu lire un bouquin, oui. Formidable, où j'ai découvert un bouquin, où j'ai pu écouter la radio en me disant « Oh là, c'était drôle, que c'était formidable !» Et puis me passer un film de soir et un film formidable et puis faire l'amour. Bon, ben ça, c'est une journée qui est vraiment formidable. Il m'en est arrivé, je crois, deux dans ma vie, à peu près, des journées comme ça.
C'était un grand solitaire. Voilà, il aimait la solitude, qui était capable de ne pas aller à un endroit où il était invité et d'envoyer des fleurs en disant « c'était merveilleux ». Ce n'était pas du tout un mondain. Il pensait qu'il fallait peu se montrer. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'il est intervenu dans des émissions ou à la télévision, ça a une force très grande parce qu'il pensait qu'il fallait au contraire que le lecteur se construise lui-même et qu'il ne fallait pas se répéter sur tous les plateaux. Et c'était un homme... d'une extrême douceur, à la fois d'une extrême douceur et d'une très grande virilité. C'était ce mélange des deux. Il était d'une élégance morale. Il était une personne très, très élégante moralement. C'était un homme merveilleux, quoi. Enfin, pour moi.
J'essaie de faire rire,
je sais de faire rire avec tout ce qui pouvait se passer.
Archive Antenne 2.
Je suis né sur cette planète au départ, je sais pas de comment je viens, j'arrive. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'un jour je vais vieillir et qu'un jour je vais mourir. Et tout le reste, c'est vraiment du décor.
C'est du décor.
Et essayons de vivre le mieux possible. Essayons de vivre le mieux possible et sans forcément dégringoler. On peut vivre très bien et surtout à notre époque, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a jamais été si près de la catastrophe et on n'a jamais été si près du bonheur.
C'est curieux parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Reiser, dans ses dessins, la mort est très présente. Il a fait des dessins d'une très grande force où déjà la mort est présente. Et voilà, il est mort de la même maladie que Rimbaud, il est mort comme Rimbaud. Et alors le problème avec quand vous aimez un homme comme Reiser, c'est qu'il appartient à tout le monde.
Jean-Marc Parisis, quelques jours après le décès de Reiser, il y a une couverture dans Charlie Hebdo qui paraît. Vous pouvez nous la décrire.
C'est simplement ses amis qui reprennent une couverture qu'avait faite Reiser à la mort de Franco, dans Charlie Hebdo. Franco va mieux, il est allé au cimetière à pied. C'était ça, je pense, la couverture. Et les amis de Reiser, c'est-à-dire Cabu, Volinsky, GB, Choron, Cabana et les autres, adaptent en fait à la couverture et titre « Reiser va mieux, il est allé au cimetière à pied ». Voilà, c'est un magnifique hommage, quoi. Au lieu de pleurer, de chouiner, on renvoie un dessin, Et on le salue comme ça, à la fois très affectueusement et très ironiquement. C'était bien dans l'esprit.
Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à gueuler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satan et en bas c'était les patins.
Johann Sfar, quel est l'héritage qu'il laisse notamment au dessinateur Reiser?
Je crois pas que ça se voit dans mon travail, mais moi je me considère comme un héritier de Reiser. Il y a un dessinateur, il y a Vuhlmann, qui est un descendant, ça me paraît éclatant. Je sais pas qui d'autre est un enfant de Reiser aujourd'hui. Sans doute beaucoup de gens, sans doute des gens qui font un travail très divers et qui ont lu ou regardé Reiser depuis toujours. Après se pose la question de l'outrance en dessin et de ce qu'autorise aujourd'hui notre espace public. C'est une question ouverte. Malheureusement, dans ce domaine, les censeurs ont de plus en plus souvent raison.
On pourrait faire du Reiser aujourd'hui?
Bon, je pense qu'on peut tout faire aujourd'hui. La seule question, c'est de survivre à son dessin.
Lui, il aimait beaucoup Sampé, par exemple. Et Sampé aimait beaucoup Reiser aussi. Mais c'est un dessinateur qui a ce même type de force. Quoi. Voilà, donc. En tous les cas, pour moi, il marquera une époque. Et d'ailleurs, il y a encore des expressions qui sont rentrées dans le langage commun et qu'il a. C'est des titres de ses livres. On vit une époque formidable. C'est lui qui l'a inventé. C'est le titre d'un de ses livres. Moi, je pense qu'il a marqué son temps.
Il était un homme du XXe siècle, mais il était au minimum une trentaine d'années avant vis-à-vis de sa génération. Et après, il était devenu plus aigu, les problèmes. Mais lui, il avait une clarté du point de vue écologique, du point de vue énergique et du point de vue de la crise de l'homme et des problèmes qui sont sortis après avec les guerres qu'on ne pouvait pas imaginer dans les années 80.
On a tendance à l'associer à ses dessins, et notamment à ses personnages, ceux qui auraient une vue comme ça, superficielle de l'œuvre, pourrait se dire, parle toujours de réserve comme presque d'un pornographe, de quelqu'un qui s'est complu à dessiner parfois l'atrocité. Oui, mais c'est toujours dialectique, c'est toujours négatif. Je vous rappelle la grande phrase de Rezer qui est, si on fait une émission sur lui, il faut toujours le préciser parce qu'on comprend tout. Je dessine le pire parce que j'aime le beau. Ça, c'est essentiel. Voilà. Dans la mesure, en fait, où il a dessiné le pire, on l'associe souvent au pire, alors qu'en fait, il n'avait que des aspirations vers le bien, la bonté, en fait, et la beauté. C'est pour moi, pour répondre à votre question, c'est un type formidable, c'était un type bien, voilà, qui a été fauché, quoi. Voilà, c'est un destin, c'est extrêmement triste, c'est extrêmement tragique. C'est comme Coluche, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est un mec qui nous manque, quoi. Vraiment, c'est un homme qui nous manque. Je rêve ou j'imagine ce qu'il pourrait, et pareil pour Coluche, ce qu'il pourrait dessiner aujourd'hui, quoi. Sur la saloperie de l'époque, ce serait très intéressant.
Quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire.
Il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui par le fait qu'il m'a toujours appris à observer, à regarder et à voir ce qu'il ne faut pas voir en fait. C'était son grand truc, c'est-à-dire que il voyait toujours le détail qui fait que ça le faisait au départ, ça le surprenait, et après ça le faisait marrer, parce qu'il arrivait à tourner ça d'une certaine manière. Et c'est ça peut-être qui m'a plus appris, c'est-à-dire à être attentif à ce qui nous entoure et faire attention aux gags, en fait. Parce que c'est vrai que c'est toujours sur un détail de la vie qu'il arrivait à tourner ça en dérision et à y mettre de l'humour noir et de l'humour vache, et des fois de la tendresse et de la poésie aussi. Moi, dès que j'ai un moment de blues ou de choses comme ça, il suffit que j'ouvre un de ses albums pour me marrer, mais pratiquement instantanément, quoi. Donc, c'est un remède contre la mélancolie et la tristesse, hein. Quand quelqu'un va pas très bien, le seul conseil que je lui donne, c'est d'ouvrir n'importe lequel des albums qu'il ait fait, et ça va tout de suite beaucoup mieux.
Il y a Boris Vian, mon passant et bruant, écoutant les histoires d'un Coluche ni d'Aran. Je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de mes proches, mes frères et mes tontons. Nous rigolons des cons avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux Bouddha.
C'était Rezer, je dessine le pire parce que j'aime le beau, avec son fils Franz Rezer, Mario Botta, architecte, Delphine de Thon, journaliste, Marie Morel, dessinatrice de presse, Jean-Marc Parisis, auteur et biographe, Michel Rezer, réalisatrice, et Johan Sfar, dessinateur. Remerciements à Michel Bernier, Charlie Bayot et Marine Côte. Prise de son, Manon Houssin, Archivina, Denis Forget. Coordination, Christine Bernard avec Sylvia Favre. Un documentaire d'Amaury Ballet, réalisé par François Test.
Bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Je l'avoue, désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes, qui le hantent toujours, savent aussi bien qu'elle, ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants, dans ma mémoire au moins, que la majorité de mes contemporains. Demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.